Mémoire d'une aveugle, quatrième partie. Chapitre 12. Le jeune homme qui venait d'entrer était singulièrement beau, singulièrement paré, et portait dans toute sa personne une sorte de distinction étrange, impossible à méconnaître. L'expression de ses grands yeux voilés était une mélancolie tendre, une tristesse fatale dont la fascination était irrésistible. Il salua d'abord Monsieur le Régent avec une nuance imperceptible de fierté cachée sous un profond respect. Ensuite Madame de Parabère avec une cérémonie affectée, puis moi, puis Voltaire qui le lui rendit en s'effaçant. Toute novice que j'étais, je devinais un mystère et une gêne. Chacun me semblait mal à l'aise, et monsieur le duc d'Orléans plus que personne. « Je vous croyais absent, monsieur le comte, » dit-il enfin, du ton d'un maître qui interroge et qui blâme. « J'étais en effet parti pour l'Allemagne, monseigneur, mais je suis revenu. « Cependant, votre famille vous attendait, monsieur. Madame votre mère avait écrit à madame pour la supplier de vous faire partir, et nous nous étions engagés à vous renvoyer au prince votre frère. » « Pardon, monseigneur, il y a une petite erreur dans ces paroles. Les choses ne se sont pas tout à fait passées de cette manière. Voilà pourquoi je suis de retour. »«
Qu'est-ce à dire, monsieur ? »
interrompit le régent avec beaucoup de hauteur. « En aurais-je donc menti ? » ?»«
Me préserve le ciel de rien penser de semblable, monseigneur. Je veux dire seulement que vous avez été trompé. Ce n'est point ma mère qui a écrit pour me rappeler. Ce sont de faux rapports adressés d'ici à ma famille et qui l'ont alarmée sur ma conduite. Je suis allé m'expliquer. J'ai vu les pièces, j'ai confondu la calomnie et je suis revenu. « Certain de ne plus être dérangé dans mes projets et dans mes plaisirs. »«
Je le souhaite, monsieur. Cependant, je vous engage à ne pas vous présenter devant madame. Le mépris de ses bons offices et de son intervention ne lui plaira certainement pas, et vous seriez fort mal reçu. »«
Je sors à l'instant de chez son Altesse royale. Mon auguste cousine m'a accueilli avec sa bonté ordinaire. » Elle m'a grondé un peu et m'a pardonné ensuite, en m'engageant à revenir causer avec elle de notre chère Allemagne et de nos parents.
Monsieur le régent se mordit les lèvres. Le jeune homme jouait serré. La marquise détourna l'entretien et fit intervenir Voltaire qui se tenait à l'écart, en observant avec ce diantre de sourire que vous savez. Il se fit prier, car dans sa jeunesse, Arouet n'était pas courtisan, je vous l'ai dit. Il aimait que les grands vinssent à lui, et il n'allait vers eux qu'en se moquant de leur omnipotence. Il y avait en lui du frondeur et du bourgeois révolté. Il n'était pas encore ce gentilhomme bâtard que nous avons vu depuis. Madame de Parabère s'en impatienta et s'en prit à moi.
« Voyez donc, monseigneur, quels beaux yeux et quels beaux cheveux à cette provinciale-là! C'est en vérité à nous rendre jalouse, d'autant plus qu'elle n'en est point orgueilleuse et qu'elle semble aussi modeste, aussi simple au milieu de sa beauté que si Dieu l'avait faite laide comme madame de Branca. »
Monsieur le régent était trop poli pour ne me point regarder après une invitation semblable. Il se tourna de mon côté. Son œil m'en dit plus que madame de Parabère n'en pensait peut-être. Je baissai mes regards.
« Madame, reprit le prince, ne viendrez-vous pas au palais royal? Je serai charmé de vous y voir souvent. »
J'ignorais l'art de parler sans rien dire, de promettre sans assurer. Je devins fort rouge et je ne répondis point. La marquise s'en chargea.
« Demain, monseigneur, demain, je la conduirai chez madame de Berry et chez votre Altesse royale. Mais nous avons un mari de Bourgogne qui n'aime point à veiller et qui aime à ce que madame sa femme l'imite en toute chose. Nous avons une cousine chez laquelle nous demeurons qui ne voit en vous autre chose qu'un antéchrist, qu'un diable à cornes et à fourche. Et comme nous sommes jeunes, nous craignons ces révérends personnages. Nous n'osons pas. »
Monsieur le régent écoutait, la tête à demi baissée, et comme s'il prenait une décision intérieure.
« Monsieur Dudefant est un bon militaire, sans doute, madame.
Il a servi, je le sais, et une mission de confiance ne lui répugnerait pas. »
Je devins rouge jusqu'aux yeux.
Je n'étais pas niaise, et je comprenais fort bien la portée de cette question. Il me répugnait d'y répondre. L'éloignement de mon mari alarmait ma conscience. Je le sentais comme un appui, quelque frêle qu'il fût, et il me semblait qu'en devenant complice de son éloignement, je m'ôtais le seul moyen de résister aux séductions qui m'entouraient. Je désirais m'amuser, je tenais à être du bel air, je me jetais sans répugnance dans une vie très différente de celle que j'avais connue jusque-là, mais ma pensée n'osait aller plus loin, selon l'expression de Madame de Sévigné. La proposition du prince me fit donc peur et m'effaroucha. Madame de Parabère, avec sa finesse toute féminine, s'en aperçut à merveille. Elle intervint sans me laisser le temps de répondre.
« Non, non, monseigneur, non, y pensez-vous, séparer des nouveaux mariés, priver cette jeune personne de son protecteur, pas encore, il est trop tôt. »
« Au fait, reprit Voltaire, qu'on leur laisse au moins le temps de se bien connaître, pour qu'ils puissent se détester en sachant pourquoi. »
Le comte de Horn se taisait et regardait la marquise lorsque monsieur le régent ne les voyait pas. De nous tous, le seul qui fut à son aise, c'était assurément le poète. Il riait des autres et assistait comme à un spectacle. Le petit corbeau, pour détourner l'attention de notre petit cercle et la porter ailleurs, se mit à éplucher la cour et la ville, et trouva des vertus qui n'existaient point, des vices qui n'avaient jamais été connus, dans le but de divertir ailleurs son royal amant, lequel paraissait trop disposé à penser ce soir-là.
« Vous savez les querelles de Madame de Pléneuf et de Madame de Prie, n'est-ce pas, monseigneur ? Vous savez que la mère et la fille en sont au couteau tiré, et que Madame de Prie fait une battue générale des amants maternels ?
Le pauvre monsieur de Prie, l'infortuné Pléneuf, qui n'en peuvent, mais en sommes comme des fous, c'est à n'y pas croire. »
J'ai entendu parler de cela. Depris ne veut plus de son ambassade. Il est aussi indécis que sa femme elle-même. Elle est fort jolie, sa femme.
Qui en doute? Quant à moi, je la trouve charmante et lui sait beaucoup d'esprit.
Elle a 18 ans à peine, n'est-il pas vrai, marquise?
Je ne suis pas sûre de cela, et pourtant, si j'en crois son visage, elle aurait moins encore.
Allons, vous êtes dans un jour de justice. « Et c'est bien à vous. »«
Soyez donc aussi juste que moi, » dit-elle tout bas au prince en se rapprochant de lui avec une câlinerie adorable.
« Et ne boudez pas ce pauvre comte de Horn, qui ne le mérite en aucune façon. »
Le régent se mordit les lèvres.
« Lui, c'est un homme sans foi, sans honneur, un libertin, un coureur de tripots. »
Elle se mit à rire et d'un geste éloigna le comte. Voltaire était déjà dans l'autre salle à regarder un tableau. Nous restâmes tous les trois.
« Philippe, reprit-elle en riant toujours, regardez-moi donc sérieusement si vous pouvez et recommencez ces reproches. »
« Oui, je les recommencerai. Oui, c'est un joueur, un coureur de tripots. »
« Et vous ? » ?»«
Mais je ne les cours point, que je sache. »
« Non, vous les avez chez vous. » « Tenez, soyez de bonne foi, vous en voulez à ce jeune homme, non pas de sa conduite qui vous importe peu, mais de l'amour que vous lui supposez pour moi. »
« Ai-je donc l'air d'un jaloux ? Ah, ma chère marquise, s'il me fallait prendre cette peine, au lieu de gouverner le royaume, à peine aurais-je le loisir de gouverner vos amants. »
« Raillez, si cela vous plaît, pourvu que vous m'écoutiez. Ce jeune homme m'aime, il est vrai. »
« Tout de bon ? » ?»«
Oui, il m'aime, et il y en a bien d'autres. Pourquoi vous inquiétez de celui-là ? »
« Je ne m'en inquiète pas. « Ah, monseigneur, ceci n'est guère flatteur pour moi. Prenez-y garde. »«
Madame, je rends justice à votre vertu. »
J'étais là entière. J'avais grande envie de me lever, car la position n'était pas tenable. Je fis un mouvement. La marquise m'arrêta. Elle voulait un témoin, sans doute.
« Monseigneur, poursuivit-elle avec une certaine émotion, vous haïssez le comte de Horn, convenez-en. »«
Madame, je ne hais que les ennemis du roi. Je n'ai jamais su haïr les miens. Quant à mes rivaux, si j'en ai, je les méprise ou je les oublie. Je ne devine point pourquoi vous insistez de la sorte sur cet étranger. Un oiseau de passage indigne de nous occuper l'un et l'autre, et pour lequel ma haine serait un honneur inespéré. Parlons d'autre chose, je vous prie, c'est déjà trop. Appelez Voltaire, appelez votre protégé. Vous allez faire croire à madame du Deffand que je vous adore en cadet de Gascogne, au point de redouter mon ombre. Et ce serait singulièrement me juger, convenez-en. »
La fine mouche avait atteint son but avec une hardiesse que je ne lui supposais pas. Je n'y compris rien alors. Depuis, j'ai eu les explications de cette scène si adroitement filée, dont le bon prince ne soupçonnait pas le but. Il resta encore quelques instants, causant avec Voltaire et même avec monsieur de Horn, comme s'il n'eût pas eu d'inquiétude, et comme s'il ne l'eût pas traité l'instant d'auparavant de turc à mort. Monsieur le duc d'Orléans était bon. Il avait beaucoup d'esprit, il causait d'une manière charmante, il savait beaucoup même, et comme simple particulier, il y avait peu d'hommes de sa valeur. J'en fus charmé. Il nous quitta en nous disant à chacun, même au comte de Horn, une chose gracieuse. La marquise le reconduisit jusqu'à l'antichambre, non pas pour obéir à l'étiquette, mais familièrement, le bras sur son épaule. Elle ne se gênait point. Voltaire et le comte ne tardèrent guère à s'en aller aussi. « Où soupez-vous ? » me demanda la marquise.
« Chez moi, avec mon mari. »«
Vraiment ? Restez ici, je fermerai ma porte et nous causerons. »
Chapitre 13. Madame de Parabère riait beaucoup, je l'ai dit. Elle paraissait très folle et très vive. Elle plaisantait sur les événements les plus graves. Et cependant, je trouvais dans cette grande gaieté quelque chose de forcé, de douloureux, pour ainsi dire. Elle semblait tenir de force un masque sur son visage. Ce soir-là, elle devait souper au palais royal, ainsi que cela lui arrivait presque chaque jour. Mais, par une sorte de caprice, elle y renonça pour rester avec moi. Je m'aperçus du changement de son humeur, et je lui en demandai la raison.
« Ah, bah !» répliqua-t-elle. « Une raison. Pourquoi une raison ? Pourquoi m'inquiéter de cela ? J'ai changé sans m'en apercevoir, et si je vous en disais le motif, vous ne me croiriez pas. Passons à d'autres discours. Parlons de vous. Contez-moi bien vos premières années, votre mariage. Dites-moi si vous n'avez pas quelques galants, ou si vous nous apportez une vertu toute confite en pruderie et en dévotion. Ce serait dommage, en vérité. Ce serait dommage avec ce joli visage-là. » Je n'avais aucune envie de rien raconter. Bien qu'elle me plût infiniment, madame de Parabère m'étourdissait. Je n'étais pas faite à ce bruit-là. J'éludais la question en me rejetant sur monsieur du Deffand et sur la manière dont notre union s'était décidée. Elle se moqua de ce qu'elle appelait ma bonhomie et de ma résolution de fidélité absolue.
« Mais, madame, tromper mon mari !»«
On ne le trompe pas, ma belle, on s'amuse. L'avez-vous trompé aujourd'hui ? Cependant, vous êtes ici sans sa permission. »
Le raisonnement était spécieux. Je n'y trouvais rien à répondre. Pourtant, j'étais encore timide dans cette route. J'y marchais à pas effarouchés. Je craignais de m'égarer et de me perdre. J'étais seulement curieuse et je désirais savoir. J'interrogeais donc beaucoup. La marquise ne demandait pas mieux que de répondre. Nous causions comme de bonnes amies et je commençais à m'instruire. Je commençais surtout à prendre plaisir à cette instruction, lorsqu'un laquais vint annoncer un message de monsieur le régent. « Ah ! » fit la marquise avec un mouvement d'humeur. « Que me veut-il encore ? Je l'avais oublié. » C'était un page, un fort joli page, le chevalier de Ravanne, aussi espiègle et aussi hardi que ses fonctions le comportaient. Il nous salua cavalièrement et remit à madame de Parabère un billet qu'elle reçut du bout des doigts. En le lisant, elle rougit et mordit ses lèvres. « Quoi, je ne suis pas la maîtresse de mon temps ? Quoi, je ne puis rester seule chez moi, avec une amie, sans que l'on m'envoie chercher, parce que le souper serait triste en mon absence et qu'il me faut divertir les gens ? Je n'irai pas, monsieur de Ravanne. Dites-le à son Altesse de ma part. »
« Cependant, madame, son Altesse vous attend. »«
Eh bien, elle m'attendra. »«
On vous attend, ainsi que madame la marquise du Deffand. Je suis chargée d'une invitation toute particulière pour elle. »«
Moi ? » m'écriai-je effrayé.
« Oui, madame, » répliqua-t-il avec le plus engageant sourire.
« Quoi ? Madame du Deffand ? Il faut la conduire, la voir faire son début ce soir à un souper du palais royal, elle qui a peur de tout, elle qui nous prend pour des échappés de l'enfer. Ah, c'est très différent alors. Ah, je ne demande pas mieux. J'irai, nous irons, je m'amuserai infiniment.
« Je ne puis accepter, moi, madame, » répliquai-je tout ému.
« Vous ne pouvez accepter ? Ah, la bonne folie ! Est-ce qu'on refuse monsieur le régent ? Madame, j'ai l'ordre de vous emmener. »
« Je ne puis absolument. C'est impossible. » Continuai-je tout près de pleurer.
« Madame, j'ai l'ordre de ne pas m'en aller sans vous. »
« Mais, monsieur du Deffand,
je dois aller le prévenir en sortant d'ici. Monseigneur y a pensé. Monseigneur pense à tout. »
« Monsieur du Deffand sera furieux et ne me pardonnera jamais. »«
Furieux contre le duc d'Orléans ? L'oserait-il ?
Ah, que je suis malheureuse d'être venue. J'aurais dû écouter mon mari, ma tante. On me le disait bien, que j'irais plus loin que je ne voudrais. »
« D'honneur, chevalier, elle est adorable, et je vous assure qu'elle va pleurer. »
J'en avais grande envie. Jamais je ne me trouvais plus empêchée. Ravanne et la marquise faisaient des éclats de rire à mes dépens, ce qui me mettait tout de bon en colère. Pourtant, il y avait un petit coin de ma volonté qui disait oui. J'étais retenue par la crainte, par un reste de préjugés. Autrement, j'avais grande envie de m'amuser, surtout grande envie de connaître ce qui m'effrayait si fort. Je fis une dernière et timide objection.
« Et puis-je aller ainsi, dans un pareil costume ?»«
L'habit va bien, avec quelques joyaux, quelques ajustements, et ce sera l'affaire d'un clin d'œil. Vous serez aussi belle, plus belle que les autres. » « Vous commencez à vous humaniser, pourtant. »«
Non, non, madame, non, je ne veux pas, je ne puis pas. »«
Monsieur de Ravanne, allez prévenir monsieur du Deffand. N'écoutez pas cette jolie pleureuse. Pendant ce temps, elle se prépare, moi aussi. Avant 1 heure, on sera à table. »«
Madame, monsieur, n'en faites rien. Ne voyez-vous pas qu'il me faudra rentrer demain matin ? Et comment serai-je reçue ?»
Les rires redoublèrent. Je ne riais pas, moi.
« Elle a peur du fouet. C'est délicieux. Quel dommage qu'elle ait un mari. On la ferait inscrire comme pupille du roi. Et tous les charrons du monde y perdraient leur latin. Allez, Ravanne, allez vite. Pour lever la difficulté, nous la ferons reconduire demain par une escouade du guet assis, le corps le plus respectable de l'Europe. Il faudra bien qu'on l'accueille. »
Le page sortit. Madame de Parabère m'entraîna, moitié de gré, moitié de force, à son cabinet de toilette. Elle appela ses femmes, elles me coiffèrent, elles me parèrent comme une poupée sans que je m'en mêlasse.
La marquise tournait autour de moi, présidait, donnait des ordres. Je me laissais faire, et bientôt je commençais à me sourire. Je me trouvais belle. C'était plus de la moitié du chemin de fait. Le petit corbeau pensa ensuite à elle. Personne n'avait plus de goût. Je la vis se transformer subitement. La vivacité de ses mouvements m'étonnait de plus en plus. Cependant, elle ne riait plus depuis qu'elle ne s'occupait plus de moi, et son visage prit l'expression sérieuse que j'avais remarquée. « Ils me veulent cette nuit. Ils me forcent à venir. Ils me le paieront. Je n'épargnerai personne, et nous verrons ensuite comment ils me remercieront de ma franchise. » « Vous êtes donc méchante ?»« Je suis furieuse. Je ne supporte pas qu'on me dérange et que mon amant prenne avec moi les airs de prince. Je suis lasse de ce joug. »«
Que ne le rompez-vous ?»«
Le rompre, c'est très facile à dire, mais que mettre à la place ?»«
Il y a tant de choses. »«
Il n'y en a pas, ma chère petite, retenez bien ceci. Je suis dans mon jour de vérité. En voilà une. » Il est certaine existence qui devient indispensable lorsqu'on l'a connue. On la maudit, on la déplore, on enrage, on voudrait la quitter, mais on y revient malgré soi. Mais on ne peut plus en accepter l'autre. Mais elle dégoûte de tout le reste, ce qui rend le bonheur impossible, puisqu'on ne peut la trouver nulle part. Cette existence-là, c'est la mienne. Ce sera la vôtre, n'en doutez pas. Ce qui ne doit pas nous empêcher de souper avec son Altesse et de nous hâter encore, car on nous attend.
Chapitre 14. Nous entrions au palais royal, que je ne m'étais pas encore rendu compte de ce qui se passait. J'allais devant moi, entraînée sans savoir où, sans réfléchir, plus d'à moitié contente et bannissant l'inquiétude. J'aurais volontiers dit, comme un personnage de l'Antiquité, « À demain, les affaires sérieuses !» Le carrosse s'arrêta. Nous montâmes un petit degré. C'était un souper intime. Nous arrivâmes aux appartements par des passages peu éclairés, bien connus de la marquise. Un garçon rouge marchait devant nous. Plus loin, nous trouvâmes des valets de chambre, puis des huissiers. Enfin, les portes d'un salon s'ouvrirent. Je me sentis dans une atmosphère embaumée, au milieu de mille bougies, où des femmes charmantes, des hommes fort élégants, causaient et riaient à l'envi. Je fus ébloui. J'eus un instant d'étourdissement. Je n'entendis pas Madame de Parabère me présenter au régent, que je ne saluai point d'abord. Je ne vis rien à force de regarder. Revenu de mon trouble, je distinguai le prince, qui me donnait la main, puis deux ou trois beautés qui m'examinaient, et j'entendis la marquise qui demandait le nom des convives. « Qu'avons-nous là, monseigneur ?»«
Madame de Sabran, Madame de Falaris, Madame de Lussan, Madame de Pléneuf, Nocé, Richelieu, Lafare, Simiane, Lauzun et je ne sais qui. »«
Quoi ? Le vieux duc de Lauzun ?»
« Cela vous étonne ? Cela m'étonne bien davantage encore, car je ne lui pardonne point la belle besogne qu'il m'a faite au Luxembourg. Mais il est venu me demander à souper avec cette effronterie que vous lui connaissez, et je n'ai pas osé le mettre dehors. »«
Viendra-t-on du Luxembourg ?»
Le prince haussa les épaules. « Ne m'en parlez pas. Ce sot amour nous l'enlève. Elle veut rester seule avec lui. C'est un vrai scandale. »
« J'irai demain lui présenter Madame du Deffand. Je verrai cela. »
Madame la duchesse de Berry, fille de Monsieur le duc d'Orléans, dont il était question, habitait le Luxembourg. Elle s'était éprise de Monsieur de Rion, neveu du duc de Lauzun. Celui-ci, âgé de plus de 80 ans, jadis aimé de Mademoiselle, avait épousé, depuis quelques années seulement, une charmante personne, fille du duc de Lorges, sœur de la duchesse de Saint-Simon, qu'il enfermait à Passy, qu'il rendait malheureuse à mourir, dont il était jaloux, bien à tort. Cela ne l'empêchait pas de chercher des maîtresses, de se vanter d'en avoir, de courir les jolies femmes et de hanter les lieux malfamés. Lorsque son neveu plut à madame de Berry, lui qui savait s'y prendre avec des princesses, donna les meilleurs conseils sur la façon de se conduire et amena la petite fille de Louis XIV à épouser secrètement un cadet de Gascogne, ainsi que jadis il avait épousé lui-même la petite fille de Henri IV. Ce sont deux exploits assez distingués dans la vie d'un homme. Ce qui restait de Lauzun montrait un visage ordinaire, un air impertinent, une petite taille montée sur l'orgueil et la suffisance, beaucoup d'esprit, une assurance que rien ne démontait, de la jactance, une opinion de soi-même allant jusqu'au culte. Enfin, un de ces personnages dont on peut faire son amant lorsque la jeunesse vous égare et vous emporte, mais dont on ne fera jamais son ami. C'est là une faible esquisse de cette ruine extraordinaire. Plus tard, vous le connaîtrez mieux. Madame de Parabère s'approcha des femmes qui l'attendaient. Je la suivis. Madame de Sabran avait d'abord partagé avec elle les bonnes grâces de monsieur le régent. Elle avait cédé sa place à madame de Falaris et ne paraissait plus au palais royal que comme convive. La duchesse de Falaris, dont le mari avait été fait duc par le pape, cela ne tirait pas à conséquence et l'on ne prenait guère son rang au sérieux, était une grande et grosse blonde, la peau blanche, les yeux langoureux, la tournure abandonnée. Mon petit secrétaire n'a pas besoin de comprendre ce mot-là. Note du petit secrétaire, il le comprend bien. Madame de Falaris manquait de grâce, mais elle rachetait ce défaut par un autre, très précieux pour monsieur le régent. Ceci ne nous regarde point. La marquise, résolue à se moquer d'elle, car elle ne pouvait la souffrir, commença par l'accabler de compliments sur sa toilette, d'assez mauvais goût du reste. Ce n'était que bijoux, draps d'or, perles, diamants et colliers. Sa robe laissait voir sa poitrine tout entière. Aussi sa rivale dit-elle à madame de Sabran, comme en secret, de façon à être entendue de tout le monde, « Cette bonne duchesse ignore donc que les hommes regardent seulement ce qu'on leur cache ?»« Madame, » reprit madame de Falaris offensée en faisant allusion au costume fort simple de la marquise, « vous avez là un charmant déshabillé. Il vous sied à ravir. Pourtant, vous avez l'air de sortir de votre lit. » Ce n'est pas comme vous, madame. On jurerait que vous ne vous êtes pas couchée depuis hier soir. Est-ce que cela arrive quelquefois aux belles dames de ce temps-ci ? Reprit innocemment le duc de Lauzun. Dans ma jeunesse, on n'avouait point ces choses-là, et sauf les Reversis ou le Lansquenet, aucun de nous ne se vantait de pareille victoire. Autre temps, autre mœur, monsieur le duc, et vous afficheriez bien haut aujourd'hui pareille bonne fortune si elle vous arrivait. Pardonnez-moi, madame, je ne suis pas monsieur le régent. Je suis encore moins monsieur le comte de Horn, Dieu merci, et pas plus le marquis de... L'annonce du souper coupa cette litanie. Heureusement pour madame de Parabère, car le malin vieillard avait toute honte bu, et l'on ne pouvait avec lui obtenir le dernier mot. On passa dans la salle à manger, autre merveille d'élégance et de richesse. Je fus placé entre monsieur de Lauzun et monsieur le régent, lequel avait à sa droite madame de Parabère, flanquée du duc de Richelieu. « Monseigneur !» s'écria étourdiment M. de Nocé. « N'aurons-nous pas le cardinal ?»« Il attend la permission de madame de Parabère, qui l'a banni, je suppose. »« Et pourtant, non, le voilà. Mets-toi à table, abbé, et raconte-nous les nouvelles. Si tu ne les sais pas, qui nous les apprendra ?»« Je n'en sais que trop, monseigneur. Le plus certain, c'est que je deviens vieux. Je perds la mémoire. » Qu'as-tu oublié ? Mon souper d'hier. Tu es donc bien malade ? On place près de moi le soir, quand je travaille, un potage et une volaille. Sans cela, j'irai souvent me coucher à jeun. Hier, à 10 heures, je commençais à avoir faim. J'ai demandé mon encas. Mes gens m'ont assuré que je l'avais mangé. Et pourtant...
Vous devez l'avoir mangé,
interrompit-on de toutes parts.
L'histoire court tout Paris, me dit Lauzun à l'oreille. Son maître d'hôtel l'avait négligé, et on lui a fait cette histoire. Il l'a cru, ce grand ministre.
Tu n'as pas tué tes officiers, poursuivit le prince.
À quoi bon tuer ces espèces, s'il y en a toujours?
Monseigneur, vous demandez des nouvelles. J'en ai de curieuses. D'abord, de grandes plaintes de la police contre madame la marquise de Parabère.
Contre moi?
Oui, madame. Vous nous donnez plus de besogne à vous seule que tous les sujets du roi ensemble.
Comment cela?
Les rapports sont pleins de vous. De tous côtés, ce sont des victimes de vos yeux qui se tuent ou qui meurent de désespoir. Nous ne savons auquel entendre.
« Il y en a qui n'en meurent pas, » dit la comtesse de Lucan.
« Vous avez la bonté de les recueillir, madame, et c'est une générosité dont je vous sais gré, » répondit madame de Parabère.
« Ah, oh, si l'on mourait pour si peu de choses, »
interrompit le marquis de Lafare, « aucun de nous ne serait ici. »«
Quoi ? Pour un refus ?
Je déclare que je n'en ai jamais reçu. » s'écria fatuitement monsieur de Richelieu.
« Et moi, je déclare que je n'en ai jamais donné. »
Cette naïveté de madame de Falaris fit rire les convives aux éclats.
« Mon Dieu, que cette femme aurait quelquefois de l'esprit si elle n'était pas si sotte !»
glissa tout bas la marquise à son voisin. Chapitre 15.
Marquise, vous êtes ce soir du dédain le plus superbe pour nous tous, dit madame de Sabrin.
Je ne dédaigne jamais mes amis, madame, et vous savez aussi bien que moi à quoi vous en tenir là-dessus.
Nous vous l'avons prouvé, ajouta monsieur de Richelieu.
Je vous l'ai bien rendu.
Oh, certainement.
Je compte faire davantage encore à l'avenir.
Ce sera trop aimable.
« Aujourd'hui, par exemple, je suis très bien disposée. »«
Que nous donnez-vous ? » ?»«
On jurerait que je suis une tante à testament et que vous vous partagez ma dépouille. »«
Je serais curieux de voir ce testament, » poursuivit le prince.
« Cela vous amuserait beaucoup, monseigneur ? Rien n'est plus facile. »«
Votre testament ? Que de choses à léguer ! » !»«
J'ai bien des gens à satisfaire aussi. »
« Voyons, que me laisserez-vous à moi ? » s'écria monsieur le duc de Richelieu.
« Mon miroir, monsieur le duc. »
« Et à moi, madame ? » ?»«
À vous, monsieur de Lauzun, mes tablettes. »
« Me donnerez-vous quelque chose, chère marquise ?»«
Chère madame de Sabran, je vous lègue ma guenon Artémise, le modèle des veuves. Madame de Pléneuve daignera accepter tous mes parfums. »
Elle en avait grand besoin, elle empoisonnait.
Et monsieur le régent?
Mes gouttes fortifiantes.
Et le cardinal?
Mon catéchisme.
Et madame de Falaris?
Ah, c'est le plus important de mes legs. Elle devra me remplacer entièrement en toutes choses, ce qui n'est pas facile.
Vous me faites peur, madame.
« Oh, vous n'y êtes pas, madame la duchesse. Je voudrais vous donner bien davantage pour que la fête fût complète. »«
Vos diamants ? Vos perles ?
Peut-être. »«
Votre hôtel ? Vos carrosses ?
Non, je les garde. »«
Après votre mort ?
Oui, pour me servir de cortège. »«
Alors je ne vois pas. »«
Cherchez bien. »«
Ce sera quelque chien favori, » dit monsieur de Nocé.
Pas le moins du monde.
Un amant?
On ne donne point cet objet-là. C'est un soin que vous ne nous laissez pas le temps de prendre. Vous vous donnez vous-même.
Nous suivons votre exemple, madame, car Dieu merci, vous changez plus vite que nous. Seulement, à vous entendre, le dernier amour est toujours le plus fort. Il n'y a que les sottes pour donner ces raisons-là. Cela ne se ressemble point. Vraiment, expliquez-vous. À quoi bon m'expliquer? Ne le savez-vous pas aussi bien que moi? On aime la première fois par curiosité, la seconde fois par dépit, la troisième fois par reconnaissance, et les autres par habitude.
Quel est mon numéro? Demanda le régent.
Choisissez, monseigneur, je ne suis pas femme à vous contredire. Revenons à madame de Phalaris. Que lui laissez-vous?
Vous ne devinez pas?
Ma réputation. Nous éclatâmes tous de rire.
Oh, riez, riez. Cela n'est pas déjà si facile à soutenir.
Que dit-on de moi? D'abord, que je tue mes adorateurs, madame la duchesse. Tous ceux que vous tuez se portent à merveille, et ainsi qu'on le faisait observer tout à l'heure, si vous aviez la même habitude, nous souperions ce soir entre femmes.
Madame de Phalaris ne comprit pas. Elle rit parce que les autres riaient.
Dites-moi donc mon legs, enfin, vous me faites trop attendre.
Supposez-moi donc morte. Je vous laisse les hommages, les compliments, les flatteries. Je vous laisse mes amis, sans vous les garantir toutefois. Je vous laisse mes ennemis aussi. Il faut bien accepter les charges. Je vous laisse l'amour et le cœur de monsieur le duc d'Orléans. C'est placé à fond perdu. Je vous laisse un prince à amuser, des courtisans à recevoir, des calomnies à repousser, des mensonges à faire, tout l'attirail de la folie, dont je suis lasse, et je vous souhaite autant de bonheur qu'à moi.
Pendant que vous êtes en train, reprit le duc de Richelieu à demi-voix, vous devriez bien lui laisser votre esprit.
Oh, mon Dieu, qu'en ferait-elle? Elle ne saurait pas s'en servir.
Le régent était devenu triste, ce qui lui arrivait plus souvent qu'on ne croit. Il baisa la main de la marquise de Parabère en lui disant « Voilà une charmante plaisanterie, mais elle est cruelle pour moi, et je vous prie de la cesser. »«
Cruelle? Moi, envers vous? Oh, monseigneur, je n'y ai jamais pensé, je vous assure. On m'a demandé mon testament, je l'ai fait, j'ai disposé de ce qui m'appartient. Ne pouvons-nous choisir nos héritiers ?»
Monsieur de Lauzun, qui soupait pour la première fois au palais royal, écoutait beaucoup et notait pas son regard de dessus cette femme si vive, si franche, si hardie dans ses discours. Elle s'en apercevait bien, et se retournant tout à coup vers lui, elle lui demanda ce qu'il pensait de ce partage et de ce qu'elle appelait les successeurs d'Alexandre.
« Je pense, madame, que j'ai là une voisine oubliée dans tout ceci. » Et pourtant, elle mérite un souvenir,
répliqua-t-il en me montrant.
Oh, quant à celle-là, je n'ai rien à lui donner. Elle prendra sa part toute seule. Si je lui destinais quelque chose, ce serait mon voile de veuve, à condition qu'elle le renfermerait comme moi dans un tiroir. Pour vous qui avez mes tablettes, c'est à condition de vous en servir et d'y raconter votre belle jeunesse. Alors que les dames vous adoraient, alors que vous alliez devenir le cousin du roi par la grâce de l'amour. Voyons, les temps sont-ils bien changés? Dites-le.
Madame, il y a trois choses de changer. Les temps, les gens et moi-même. Je suis encore le moins changé des trois.
Et les femmes?
Elles ont changé pour moi, mais elles me paraissent les mêmes pour les successeurs d'Alexandre. Chacun de nous est un peu successeur d'Alexandre, à ses yeux du moins.
Y en a-t-il parmi nous qui vous rappelle les femmes d'autrefois? Quelqu'un ressemble-t-il à la grande mademoiselle, à madame de Monaco?
Ne me parlez point de mademoiselle, répliqua-t-il en prenant un air de componction.
C'est l'éternel deuil de mon cœur.
« Et les autres? Et madame de Monaco? Madame de Monaco qui nous a gratifié de ce ridicule duc de Valentinois dont nous avons tant ri, sans compter monsieur son père, ridicule au superlatif, ce que la princesse savait mieux que personne. Comment était cette célèbre princesse de Monaco? Trouvez-vous ici quelqu'un qui vous la rappelle? Jamais je n'oublierai le regard et le sourire avec lesquels monsieur de Lauzun parcourut le cercle que nous formions. C'était toute une satire. Vous lui ressemblez toutes, mesdames, sous un certain rapport, mais aucune de vous n'a de ses traits ni de son air. Les airs de ma jeunesse ne se peuvent comparer à la vôtre. On s'amusait autrement. Le but était le même, les formes étaient différentes. Nous étions plus majestueux, plus sérieux en apparence. On s'en dédommageait en particulier, mais pour le public, c'était le décorum. Pardonnez-moi de vous le dire, nous étions plus grands seigneurs. Nous ne descendions guère de la gloire de Niquet, où nous voulions qu'on nous admirât. Je crois que c'était mieux, d'autant plus que le plaisir n'y perdait rien. Que dirait donc monsieur de Lauzun s'il voyait les jeunes seigneurs d'aujourd'hui? S'il voyait les grandes dames et la déchéance épouvantable où la noblesse est tombée, sans compter l'avenir, qui nous réserve bien d'autres chutes encore. Chapitre 16. Je n'avais guère parlé, j'étais intimidée. J'étais avide d'entendre les autres et de jouir de cet esprit que le mien admirait si bien et après lequel il aspirait depuis longues années. Monsieur le régent fut très galant pourtant, très convenable, et beaucoup plus respectueux qu'il ne l'était envers aucune de ces dames, qu'il connaissait trop. Cependant, rien, dans sa conduite ni dans ses propos, ne me fit supposer ce jour-là ce qui arriva depuis. Peut-être y avait-il des regards dangereux autour de nous. J'oubliais mon mari, ma cousine, les désagréments qui m'attendaient. Mais, quand approcha le moment du retour, tout me revint à la mémoire, et je commençai à avoir peur. Je n'en aurais pas parlé si madame de Parabère, me voyant devenir sérieuse, ne l'eût fait remarquer à monsieur le duc d'Orléans. « Elle tremble !» dit-elle en riant. « Elle craint une assemblée de famille en furie. Si vous ne la rassurez pas, monseigneur, si vous ne la protégez pas surtout, nous ne la reverrons plus. » « Monsieur Dudefant est donc bien terrible ?»« Mon Dieu, monseigneur, il n'est pas terrible du tout. Dans quelques mois, dans quelques semaines, dans quelques jours peut-être, elle ne s'en occupera point. Vous ne comprendrez pas pourquoi elle est si craintive, vous que votre Dubois a émancipé avant l'âge de raison. Enfin, pour qu'elle ne craigne plus son mari, il faut qu'elle ne se craigne plus elle-même. Il faut qu'elle soit délivrée de ses remords de pensionnaire, et cela n'arrivera pas du premier coup. Elle n'a pas fait grand mal ce soir, n'est-ce pas? Eh bien, ce n'est pas son cœur, c'est sa conscience qui battra tout à l'heure en se retrouvant sous le toit conjugal. Vous riez de cela? Votre conscience ne bat pas plus que votre cœur. Mais nous sommes jeunes, nous. Vous, marquise, vous avez encore un cœur et une conscience? Vous ne vous seriez pas défait de ces friperies-là? Monsieur le duc d'Orléans était bon. Il avait des scrupules involontaires sur des sujets qui n'inquiétaient pas les gens de son espèce. Pourtant, ainsi que le disait Louis XIV, c'était un fanfaron de vice. Il se parait de ceux qu'il n'avait point. Madame de Parabère n'accepta pas cette accusation si brusquement formulée. Elle lui répondit à l'oreille je ne sais quoi de flamboyant, dont le prince n'osa pas rire. Il se retourna ensuite vers monsieur de Lauzun et lui fit signe d'approcher. « Monsieur, lui dit-il, vous êtes l'homme le plus respectable de toute la compagnie. » « Le croyez-vous, monsieur ? J'en suis fâché pour la compagnie, alors, et confus en ce qui me regarde. Chargez-vous d'accompagner de ma part madame la marquise Dudefant en son hôtel, et veuillez dire à monsieur Dudefant que je l'attends, demain après le conseil de régence. « Je n'y manquerai pas, monseigneur, en ma qualité du plus respectable de la compagnie. Ce sont vos derniers ordres ?»«
Vous savez ce qu'il faut dire en pareil cas à un mari qui se révolte. Ce n'est pas à vous que je prétendrai dicter ce que vous nous avez appris depuis si longtemps par votre exemple. »«
Depuis trop longtemps, hélas. C'est pour cela que je le sais si bien. »«
Madame, quand il vous plaira. »
ajouta-t-il en me saluant d'un air qui sentait son Versailles au beau temps de la gloire. Nous sortîmes, munis des recommandations du prince, de madame de Parabère, de tout le monde enfin. Je montai dans le magnifique carrosse du duc, lequel menait toujours un train de grands seigneurs. Et nous voilà, avec des torches, des laquais à cheval, des pages, courant par les rues à 5 heures du matin. Il faisait jour, s'il vous plaît, et allant frapper à coups redoublés chez cette pauvre madame de Civetot, qui se réveilla, faisant des signes de croix, et croyant tous les diables à sa porte. Un domestique vint nous ouvrir, demandant si ce n'était pas le guet, et si l'on ne cherchait personne dans la maison, jurant par tous les saints du paradis qu'il était prêt à obéir. De quoi monsieur de Lauzun rit beaucoup.
« Je n'ai qu'à te commander une chose, c'est de réveiller incontinent monsieur Dudefant, auquel j'ai besoin de parler de la part de son Altesse royale, madame. »
Il y courut, relevant ses chausses, mal attachées, et pendant ce temps, nous entrions, monsieur de Lauzun me donnant la main, en cérémonie, comme si nous allions danser un menuet. Je me laissai faire. J'avais promis de ne le contredire en rien. On nous ouvrit la salle basse. Elle infectait le moisi et la dévote. Cette odeur particulière au couvent, et surtout aux saintes personnes qui couvrent le monde de leur mépris. Le duc en fit la remarque, en ajoutant qu'il savait d'avance ce qu'il devait dire, rien qu'au parfum de cette pièce. « Pour ces gens-là, il n'est qu'un seul langage, et j'ai appris de bonne heure à le parler. Soyez tranquille, madame. » « Vous serez contente de moi. » Mon mari entra et me jeta un regard de travers que Lauzun intercepta. Il se mit entre nous et prit subitement l'air respectable d'un marguillier. La vue de ce vieux seigneur chamarré de plaques et de cordons, mon attitude soumise, ma mante bien croisée, calmèrent un peu les inquiétudes furieuses de monsieur Dudefant. Il salua profondément le duc, fit signe à son laquais de nous avancer des fauteuils, et, comme il ouvrait la bouche pour demander ce que nous voulions, M. de Lauzun lui coupa lestement l'intention de la parole en disant « Monsieur, Madame Dudefant revient du palais royal. »«
Je le sais, monsieur, »
répondit sèchement mon mari. « Son Altesse royale, madame, m'a chargé de vous la ramener. »«
Madame ? Quoi ?
« Madame soupe au palais royal ?
Où voulez-vous qu'elle soupe, monsieur, puisqu'elle y demeure ?»
La raison était merveilleuse. Aussi le marquis ouvrit de grands yeux et ne dit mot.
« Madame a gardé Madame Dudefant près d'elle jusqu'à ce moment. Elle en raffole, elle veut la revoir souvent, mais la revoir seule, à cause de la maréchale de Clérambault, qui ne lui passe pas une favorite. » Son Altesse royale a parlé de vous à monsieur son fils. Elle a obtenu pour vous une audience. Vous serez reçu aujourd'hui après le conseil. »
Monsieur Dudefant resta écrasé sous ses compliments, sous ses faveurs. Il ne lui vint même pas un doute, et monsieur de Lauzun eut beau jeu à continuer ses moqueries. Quant à moi, j'en fus honteuse et mal à mon aise. J'y voulus mettre un terme. Je me levai en prétextant la fatigue que je ressentais. Je fis la révérence et je me sauvai chez moi. J'appris que M. Dudefant débita toutes les sottises du monde à Lauzun, enchanté de la circonstance et ravi de trouver un gibier si facile, lui dont la réputation en ce genre était établie depuis 60 ans. Ils se séparèrent les meilleurs amis du monde. La colère de mon mari était tombée. Il nourrissait les plus flatteuses espérances pour son avenir et son ambition. En reconduisant le duc jusqu'à l'antichambre, il lui dit, en forme de couronnement, « J'aurai l'honneur de remercier son Altesse royale, madame, n'est-ce pas, monsieur, après avoir vu monsieur le duc d'Orléans ?»« Mais cela vous sera loisible, » lui dit la maligne pièce. « Je ne doute pas que son Altesse royale ne vous reçoive à merveille et que les choses ne se passent à votre satisfaction. » Lauzun s'en alla en se frottant les mains, enchanté de lui-même et de la guerre qu'il allumait. Il avait bien ses idées. Malgré son âge, on le sait, monsieur de Lauzun visait à la galanterie. Une jeune femme de province, ne connaissant rien, assez belle, pas trop bête, femme de qualité, sans viser à la princerie, tout cet ensemble lui parut une proie digne de lui. Et il se dit qu'en écartant monsieur le régent, il aurait un rival de moins et un rival redoutable. Il ne s'y épargna pas. Mais monsieur Dudefant sut s'y prendre de façon à me les conserver tous les deux. Il n'y tâcha pas, sans doute cela vint de soi-même, par la force des choses et des circonstances. Monsieur de Lauzun eut loisir de perdre son temps à m'ennuyer. Quant à monsieur le duc d'Orléans, je dois être juste, il ne m'ennuyait pas. Chapitre 17. Monsieur Dudefant fut reçu à merveille par monsieur le régent, qui n'était pas chiche de bonne grâce. Il s'embrouilla si bien en parlant de madame et de ses bontés que le prince n'y comprit rien ou n'y voulut rien comprendre. Son Altesse lui donna un poste de confiance en Languedoc, une espèce de mission qui semblait tout remuer dans la province et qui ne signifiait rien du tout. Il lui commanda de partir tout de suite et sans dire où il allait. Monsieur le duc d'Orléans n'eut pas de peine à comprendre que mon mari était un sot et le traita en conséquence. « Je suis bien vieille, je suis veuve depuis longtemps. Monsieur Dudefant appartient à la postérité, ce à quoi il ne s'attendait guère de son vivant, ni moi non plus, je l'avoue. Je dois donc la vérité à la postérité. Je l'ai dit. C'est une des rares jouissances que la vieillesse nous laisse. Je serai grandement fâché de m'en priver. » Le départ de monsieur Dudefant fut immédiat. Il ne pouvait songer à m'emmener dans un voyage aussi important que celui-là. Il prit le temps de courir chez la duchesse de Luynes et la pria de se charger de moi. À défaut de mère ou de mari, il me fallait une tante. J'étais trop jeune encore, selon les idées de province et de l'ancienne cour, pour courir le monde sans porte-respect. La duchesse le reçut très aigrement et prit l'air agrimaché auquel elle était sujette lorsqu'on choquait sa pruderie, car hors de là, elle était fort bonne. Me charger de madame Dudefant, d'une dame qui va au palais royal et qu'on présente aujourd'hui au Luxembourg? « Oh non, monsieur, non, s'il vous plaît. N'a-t-elle pas madame de Parabère, madame de Falaris, madame d'Averne et tout cet escadron de monsieur le duc d'Orléans pour la protéger ?»« Mais, madame, je ne sais, je ne crois pas. D'ailleurs, elle a l'honneur d'être votre nièce. »« C'est ma nièce, certainement. Je la recevrai toujours comme telle, du moins tant qu'elle ne me forcera pas à faire autrement. » Tant qu'elle viendra chez moi seule ou qu'elle ne s'affichera pas aux quatre coins de Paris, ne m'en demandez pas davantage. Cependant, madame, il est encore des dames respectables qui se présentent au Luxembourg, qui vont saluer monsieur le régent. Bien peu, bien peu. Il faut qu'une position particulière les y force. Et celles-là vont chez madame la duchesse d'Orléans. Celles-là, lorsqu'elles paraissent au Luxembourg, y sont présentées par madame la duchesse de Saint-Simon, dame d'honneur de madame la duchesse de Berry, et non par madame de Parabère. Celles-là, monsieur, entrent par la grande porte et non par la petite. Fi donc, vous ne devriez pas souffrir. Monsieur Dudefant interrompit la duchesse, ce qui n'était guère honnête, et prit un air capable. « Je sais beaucoup de choses que vous ignorez et que vous apprendrez par la suite, madame. Croyez que je ne marche pas en aveugle, et que Madame du Deffand n'en fait que de mon aveu. Ne vous pressez pas de juger, vous verrez.
Mais j'en suis charmé, monsieur, j'en suis charmé. Néanmoins, si vous n'y prenez garde, on vous fera voir, à vous, du pays.
J'en vais voir, Madame la Duchesse, répliqua-t-il avec ce sourire plat, impertinent et bête, dont s'affublent les gens que la vanité perce à jour.
J'en vais voir, puisque je pars tout à l'heure.
Le moment est peu opportun.
Mais ce n'est pas moi qui le choisis.
Hein? Et qui donc, Madame votre femme?
Ne me faites pas parler, Madame, cela m'est défendu, et permettez-moi de me retirer. Ma chaise est attelée.
La duchesse secoua la tête, et, congédiant mon mari d'un geste, elle ajouta
« Allez, monsieur, allez, je ne vous retiens pas, mais j'ai grand peur que vous n'entriez dans un mauvais chemin. Je ne me reprocherai pas au moins d'avoir gardé le silence. Si ma nièce de Chanron vivait encore, je lui écrirais de la bonne façon. Elle n'y étant plus, je ne puis m'adresser qu'à vous. Vous êtes sourd, vous êtes aveugle, c'est un malheur. » Je vous promets cependant de tout faire pour arrêter ce que je crains avec juste raison. Dites à Madame du Deffand de ne me pas négliger. Je suis votre servante. »
Elle le planta là, et il arriva à me conter mot pour mot cette conversation avant de monter en carrosse. Je ne l'ai jamais oubliée. Elle me donna à penser, peut-être. Si j'avais, dès ce jour, fui les occasions, peut-être...
Alors, je n'aurai rien à écrire, et je ne sais trop ce que je ferai de mon présent, n'ayant rien fait de mon passé.
Monsieur du Deffand n'était pas encore sur le rempart que Madame de Parabère entra chez moi dans une toilette splendide, et, comme elle me trouva en négligé assez triste, elle recommença ses moyens expéditifs. En une demi-heure, elle me fit coiffer, habiller, poudrer d'une certaine poudre à l'iris, qu'elle mettait à la mode. Elle m'entraîna, nous montâmes dans son vis-à-vis et nous arrivâmes au Luxembourg sans qu'elle m'eût permis une observation. Ce fut, ainsi que l'avait dit ma tante, par des petites portes, par des corridors secrets que nous passâmes. On frappait de certaines façons, des femmes ou des laquais vous reconnaissaient, on traversait des cabinets à œil de bœuf, je ne sais quelle kyriel de galerie, et on arrivait chez Madame de Mouchy, dame d'atour de la princesse et sa confidente. Elle avait la police de l'intimité, comme Madame de Saint-Simon, celle des grandes entrées. En voyant Madame de Parabère, elle ne fit pas d'abord attention à moi et s'avança vers elle avec empressement.
« Dieu soit loué, vous voilà. Madame vous demande depuis ce matin. » Vous seul pouvez nous tirer de peine, ou plutôt empêcher son Altesse royale de faire une sottise. »
J'étais là, à peu près. La marquise le sentit et me nomma avant de répondre.
« Pardon, madame, reprit la Mouchy, nous avons à causer un instant, et nous sommes à vous tout à l'heure. »
« J'arrive mal à propos, répliquai-je assez blessé. Je crois qu'il faut... » J'avais déjà fait un pas en arrière lorsqu'une porte s'ouvrit et je vis entrer une jeune femme assez grasse, assez jolie, les cheveux épars et son manteau de toilette sur le dos. Elle portait une aigrette à la main et ne voyait rien autour d'elle.
« Comtesse, portez-lui cela, dit-elle, et demandez-lui si enfin ses perles ne peuvent le contenter. »
Madame de Parabère la salua de façon à ce que je la reconnusse. C'était Madame la Duchesse de Berry.
Votre Altesse royale m'a fait l'honneur de m'appeler, dit-elle. Je suis à ses ordres.
Ah, ma chère Corbette, je suis désolée, mais qui avons-nous là? J'aurais voulu être à 100 pieds sous terre. Je ne sache rien de pis que d'arriver mal à propos. Jugez de cette vie du Luxembourg, pour qu'on entre ainsi chez la veuve d'un fils de France sans y être autorisé par elle. Madame de Parabère me nomma, en ajoutant que monsieur le régent nous envoyait toutes deux et lui avait commandé de me présenter à elle. La princesse me salua d'un signe de la tête et de la main et recommença à s'occuper de son aigrette. « Allez, allez donc, madame de Mouchy, l'heure avance, cet ambassadeur va venir et je ne serai pas prête à le recevoir. » « Qu'y a-t-il donc, belle princesse ? » demanda madame de Parabère en lui prenant les mains qu'elle baisa. « Il y a que l'électrice de Bavière est morte, que c'est la belle-sœur de ma grand-mère, que l'envoyé de l'électeur va venir me saluer en mante et que Rion ne veut pas que je porte le deuil. « Mon Dieu, qu'est-ce que cela fait ? Est-ce que Rion a une raison quelconque pour quoi que ce soit, Corbette ? Depuis ce matin, il s'est enfermé parce que j'ai refusé de me coiffer avec des rubis. Il répond à travers la porte, il s'obstine. Le temps presse, je ne sais que faire. Jugez donc. Que dira mon père ? Que dira madame quand cet envoyé se plaindra que je ne porte pas le deuil de ma grand-tante ? Vous seul pouvez apaiser le régent. » Quant à madame, elle passera sa colère sur quelqu'un ou sur quelque chose, je ne la crains pas. Encore une fois, madame, pourquoi ce damné de Rium vous veut-il forcer à mettre une aigrette de rubis ? Il doit donner un prétexte, au moins. Il déteste les Bavarois, et madame le reçoit de haut en bas. Il veut lui montrer qu'il est plus puissant qu'elle et lui imposer cette énormité. « Bah, ce sera drôle !» s'écria en riant madame de Parabère. « Madame, est-ce qu'on ne dîne point séant ? Rion nous reviendra peut-être, et je tâcherai de l'endoctriner. »« Dînons donc, et au diable l'envoyer. Je lui vais dire que je suis malade, et il reviendra un autre jour. À table. »« Madame, vous venez de la part de mon père, vous êtes la bienvenue. Suivez-nous. »